Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2. Rencontre avec Juliette Rousseau autour de son livre « La vie têtue » paru aux éditions Cambourakis le 14 octobre 2022 à la librairie Terra Nova.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Terra Nova. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Juliette Rousseau d'être là pour... présenter son livre et on vous propose de commencer par une lecture par Juliette de son texte qui va durer une vingtaine de minutes et voilà, ça te va ?
Merci. Juste après ta mort, chambre blanche et corps délesté. Ton père n'a pas pleuré lorsqu'il est arrivé auprès de toi. Il a sorti son appareil photo et t'a photographié sous tous les angles. Maman, elle, a sorti son carnet et t'a dessiné. Elle t'a tracé paisible, les traits sereins. Elle était pleine de la détresse de t'avoir laissé mourir, pleine de tes mots d'adulte-enfant, confiés au milieu de la nuit, les jours précédant ta mort. Maman, j'ai peur. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas partir. Maman, je vais mourir. Non, te répondait-elle. Nous allons nous battre, tu ne vas pas mourir. Elle y croyait. Et la voilà, celle qui avait failli à sa tâche, te redessinant une fin sans angoisse. Je me souviens les avoir observés tous les deux, que j'avais connus toujours plein de ressentiments l'un pour l'autre, si différents. Ton père et ta mère. Ta mère, cette vieille hippie, cette folle, me disait ton père lorsqu'il me parlait d'elle. Elle n'était plus cette femme qu'il avait pénétrée entre deux portes à l'université, puis épousée pour pouvoir la pénétrer au lit. Pas cette femme qu'il avait obligée à jouir encore et encore pour lui prouver qu'il était un homme moderne. Elle était juste ma mère. Notre mère, une mère. C'est dire si elle était tombée bien bas. Eux qui avaient saisi l'occasion de ta naissance pour se séparer et qui se retrouvaient là, dans ce geste étrange face à ta mort. Ce même besoin de mise à distance. La chambre d'hôpital silencieuse, baignée de la lumière vive du matin bien avancé. Ta mère, ton père... Le mien, tes sœurs, ton ex-mari, tous exceptionnellement réunis, tous errants, incapables de composer les gestes face à ta dépouille, gestes qui ne nous sont pas transmis. Quand tu avais commencé à manger sans répit, à manger infiniment, et à détester le corps qui te venait de cette relation blessée à toi-même, maman t'avait peinte, de face, pour te montrer combien tu étais belle. Mais tu avais détesté ce tableau, qui ne t'inspirait rien d'autre que ce que te renvoyait déjà le miroir, pas même le geste amoureux qui l'avait engendré comme il t'avait engendré toi. Maman et nous, c'est l'histoire d'un amour infaillible et irrecevable à la fois. Dans les premiers temps du deuil, elle a gardé une bougie allumée dans la maison. Elle t'avait construit une sorte de petit mausolée que j'évitais de regarder lorsque je passais devant. Puis, après un temps, elle t'a déplacé dans un recoin du jardin. Elle y a planté des pensées, des rosiers, quelques arbres. Au centre, elle a mis une statue à ton effigie, nue, avec une fleur en creux qui te fait comme un abîme dans le ventre. Jusqu'au bout, maman aura cherché à esthétiser ta douleur. C'est peut-être ce qui lui permet de faire sens de ta mort. Les aboiements du chien traversent la cour vide de la ferme sans parvenir à l'habiter. De la poussière, sans doute, danse un peu devant les vieilles pierres. Si l'on pouvait déposer ses oreilles, on entendrait peut-être les milliers de petits crocs que le lierre plante dans les murs. Notre hameau te porte toujours en son creux. Ces derniers jours, une battue cernait le hameau. On nous avait prévenus, il vaudrait mieux ne pas sortir. Sait-on jamais ? Je me souviens. Mon père se mettait en colère quand les coups de feu retentissaient aux abords des maisons. Il allait voir les tireurs, leur sommait de s'éloigner. Il y avait des enfants ici. Il ne comprenait pas. Ou plutôt, il comprenait très bien. Celui-là ne s'adapterait jamais. Pour qui se prenait-il ? Il y a toujours eu des maisons entre le gibier et les balles. Mais mon père n'a jamais su être un homme comme il faut à la campagne. Il lui manque le goût du sang. Quand ils sortent, les tireurs revêtissent désormais un gilet orange pour se reconnaître entre eux, de loin. Hier, j'ai décidé de sortir quand même. J'ai emmené ta nièce. Dans le champ qui fait face au hameau, celui qui nous sépare de la forêt, une rangée d'hommes en gilet pointillait la parcelle. Assis sur des chaises pliables, le fusil posé sur les genoux, ils attendaient les bêtes effrayées que d'autres rabattraient vers eux. La campagne était silencieuse, on n'entendait plus les oiseaux. Venant des voitures alignées, un peu plus loin, le gémissement étouffé d'un chien enfermé, isolé de la meute. Les hommes attendaient et nous passions devant eux, en silence. C'était presque solennel. Une effronterie, sans mots ni cris, sans slogan. Lorsque la battue touche à sa fin, toutes les bêtes accourent affolées vers les tireurs. Il faut alors les abattre méthodiquement, les unes après les autres. Pendant les battues, les femmes et les enfants restent dans les maisons. As-tu remarqué la virtuosité avec laquelle les hommes savent occuper totalement l'espace ? Leur corps putrescible, fluide, peau, intestin, colère et certitude savent s'agrandir jusqu'à imbiber de peur la moindre parcelle environnante. Le lendemain du dernier jour de la battue, il faisait froid mais le soleil baignait les champs. Je suis allée chercher ta nièce à l'école à vélo. Elle a eu peur quand j'ai pris le chemin vers la forêt. Les chasseurs, maman, on ne peut pas y aller. Au loin, on entendait encore résonner des coups de feu. Mais ils ne venaient pas de cette direction. J'ai pris mon air le plus futé et sûr de moi, et je lui ai répondu que tout irait bien, que je savais ce que je faisais, et que les chasseurs tuaient ailleurs maintenant. Toute éducation est un petit mensonge. Le mien se tisse dans le flou que j'alimente entre le monde réel et celui que je veux pour elle. Le jour est limé. J'ai les genoux en pointe, le souffle qui se disperse. On pourrait sûrement m'essorer les boyaux, il n'en sortirait que des mensonges. Maudite Bégao, que t'a-t-il fallu revenir ? Enfant, tu mettais les sabots, ils pesaient lourd aux jambes, et la paille, pour faciliter. C'était une façon comme une autre de revendiquer sa lignée. T'écrire, c'est négocier avec le feu. Découvrir des foyers incandescents et en accepter l'épreuve. Puis laisser la matière s'apaiser. On n'écrit pas sur des charbons ardents. On écrit en soufflant doucement sur les braises. On en extrait ce qu'il reste. Parfois, ce sont quelques phrases, parfois une fatigue infinie. Ça va? Maman, tu peux me raconter encore l'histoire des tout petits enfants qui sont venus dans ton ventre et qui sont devenus personnes? Elle est blottie contre moi. C'est notre moment du soir, celui où l'on se chuchote des confidences. La première fois, je suis tombée enceinte dans la forêt. Je me souviens du balancement des arbres au-dessus de ma tête, de la brise, de l'odeur d'humus sous mon corps et du soleil tamisé qui baignait mon visage quand j'ai joui. Quelques semaines plus tard, j'ai su que j'étais enceinte et c'est toi qui es revenu m'habiter. Maintenant que quelqu'un d'autre prétendait grandir là où je te portais, tu te débattais, refusant de céder ta place. Donner la vie quand on porte la mort m'a immédiatement semblé impossible. J'appartenais tout entière à mon deuil. Mais j'aurais voulu dire oui, ne plus être celle qui traîne une morte derrière elle à chaque instant. J'aurais voulu être celle qui nourrit, qui porte en soi, qui laisse mûrir. J'aurais voulu fabriquer la vie pour maman, pour mon père, pour la forêt, pour le hameau, pour toi aussi. Pour qu'une présence vienne tenir la main à ton absence et leur recoudre l'existence, même un tout petit peu. La deuxième fois, c'était 9 mois pile après la première. Mon corps insistait. Je n'étais plus triste, ni coupable, j'étais en colère. J'en voulais à mon corps qui s'opposait à ma volonté, qui voulait tenter l'impossible, le déraisonnable. J'étais dans un bras de fer avec lui. On connaissait tous les deux la suite. J'ai suivi le protocole en évitant de relever les yeux. J'ai posé les gestes, les uns après les autres. C'était un jour de fête des mères. J'ai avalé la moitié de la dose prescrite dès le réveil et je me suis recouchée pour attendre les contractions qui me délivreraient. Pour l'avoir déjà vécu, je savais que j'expulserais facilement. Je l'avais expliqué à la médecin, qui avait quand même insisté pour que je prenne le double de la dose de la fois précédente. Pour que rien ne me reste dans le corps. Pour ne surtout prendre aucun risque, m'avait-elle expliqué. Mais les risques, c'était moi qui les prenais. En moins d'une heure, les contractions sont arrivées. Quand j'ai senti que j'allais expulser le fœtus, je suis allée dans la baignoire et je me suis mise à nu. J'ai poussé. Un amas gélatineux de chair rouge est sorti. Je l'ai fouillé et, logé, bien au centre, j'ai fini par y trouver un petit œuf blanc, immaculé. Un peu semblable à ceux des poules. J'ai supposé que, comme les leurs, lorsqu'ils sont fécondés, quelque part à l'intérieur devait se trouver un tout petit embryon, une tache brune qui n'est encore rien, mais qui peut devenir beaucoup. Je me suis demandé pourquoi on ne m'avait jamais montré de photographie de petits fœtus. Comment entrer en complicité avec ton corps quand il t'a toujours été défendu? J'ai beaucoup pensé aux animaux qu'on élevait pour les tuer chez nous dans l'enfance. Les poulets, les agneaux, les lapins, et même un cochon, une seule fois. Tuer n'a jamais été facile pour maman et mon père. J'ai pensé aux petites pousses qu'on arrache pour éclaircir les rangs de poireaux, de carottes, en supprimer certaines pour permettre aux autres de grandir vraiment, aux animaux blessés qu'on achève pour leur épargner des souffrances. On peut dire refuser la possibilité d'une vie. On peut aussi dire tuer un embryon. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai appris, grâce à mamie en premier lieu, puis avec les expériences, qu'avoir un utérus, c'est savoir tuer. C'est savoir dire non pour dire oui à autre chose. Pourtant, l'avortement ne nous reconnaît pas ce savoir. Si on nous laissait librement tuer nos embryons, de quoi pourrions-nous bien être capables ensuite ? Aujourd'hui, l'avortement tient plus de la faveur en vérité. Une faveur que nous concèdent les législateurs, les médecins, l'industrie pharmaceutique, tout un tas d'hommes et de femmes à qui l'ordre des hommes semble juste. une façon de nous rappeler que nos utérus continuent de leur appartenir en premier lieu. Cette faveur, on peut s'en saisir et en faire usage, quand c'est nécessaire, mais le plus discrètement possible, sans faire de vagues. Surtout, si l'on veut mériter son choix et conserver ce droit, il vaut mieux éviter de dire la colère ou la tristesse. L'avortement est un droit qui s'excuse d'exister. Un vrai droit de femme. Je l'ai enterré dans le jardin de ma maison d'alors, sous un prunier. J'ai commencé à creuser le trou peu de temps après l'expulsion du fœtus. À chaque coup de pelle, je sentais le sang, chaud et abondant, gicler entre mes jambes. Ce serait la même sensation quelques années plus tard avec les premières tétées de ma fille. L'utérus qui se contracte, le sang chaud qui s'évacue, et la vie qui se poursuit. Je voudrais enseigner à ta nièce qu'on peut dire oui ou non, sentir ce qu'on veut et suivre cette voie. Qu'un choix fondamental peut être difficile à vivre, qu'il n'est pas mauvais pour autant. Et que le choix nous définit moins que notre capacité à l'habiter pleinement. Des années plus tard, pendant une fête d'été, dans cette maison où je revenais pour l'occasion, une amie m'a apporté une prune juteuse et sucrée qu'elle a déposée devant moi, en silence et avec un sourire complice. Les fruits dorés que nos choix mûrissent. La colère de maman, tu t'en souviens ? Une colère affamée et insatiable, dans laquelle se fondent tous les liens, y compris celui de la filiation. Sa colère, un déferlement brûlant. Maman est un dragon qui met le feu à son propre nid, qui touche à tout et à toutes jusqu'à faire place nette. De n'avoir pas eu sa place au début, maman n'a jamais réussi à en faire une à celles qui lui sont venues par la suite. Ainsi, y compris avec ses filles, un jour ou l'autre, cela finissait toujours de la même manière. C'était elle ou nous. Nous contre elle. De toi ne me revient que la tendresse. J'ai longtemps imaginé que ce devait être ça, une mère. Quelqu'un qui nous prend dans les bras quand nous en avons besoin, qui nous garde contre elle en silence. J'imaginais que, dans l'intimité de leur lotissement, dans des salons avec une télévision, les mères des autres enfants te ressemblaient beaucoup. Tout se mélangeait. L'excentricité de notre maison, les éclats de maman et mon besoin profond d'être rassurée. Petit à petit, j'ai développé une sorte de fantasme diffus sur les vies que je suppose normales. Fantasme qui ne m'a plus vraiment quittée. Dans les moments de doute ou de douleur profonde, je continue d'aller m'asseoir dans des centres commerciaux ou à l'entrée des supermarchés pour y observer les gens qui passent. Et je les envie. Leur mère n'était sûrement pas des hippies. Elle n'allait pas au travail en stop, mal fagotée. Quand tu as quitté la maison, tu t'es construit une vie normale. Bien plus que la nôtre. Comme une critique tacite de ce que l'enfance t'avait réservé. Et j'ai aimé, plus encore, aller me réfugier chez toi. Une nuit d'orage, j'avais 6 ou 7 ans, et toi, 18 ou 19, je me suis glissée à tes côtés dans le lit. Tu n'habitais déjà plus là, mais tu revenais passer chez nous les week-ends. Tu dormais dans la chambre du haut. L'orage m'effrayait, et je savais que tu me laisserais rester avec toi. Nous avons parlé un moment. Ramassée contre ton corps, envahie de sa chaleur, je regardais l'orage éclairer avec régularité le tissu blanc et bleu que maman avait posé en guise de rideau permanent sur la fenêtre de toit qui surplombait ton lit. Un bidouillage, comme partout ailleurs dans la maison. La lumière furtive des éclairs donnait au motif bleu des allures de messages secrets. Je me souviens avoir dégusté ce moment à la seconde et avoir bravé le sommeil au plus loin pour le prolonger. Hier soir, l'orage grondait à nouveau au-dessus du hameau. Ma fille est venue dormir dans mon lit. Je l'ai prise dans mes bras comme tu le faisais avec moi. Je lui ai parlé en chuchotant, comme si nous nous cachions de quelques parents scrupuleux sur l'heure du coucher, comme si ce moment de complicité était un secret bien gardé entre nous. Après cette nuit-là, j'avais appris à aimer l'orage, comme un temps intime et exceptionnel, un temps de confidence. Je m'étais glissée dans d'autres lits, auprès d'autres corps dont je voulais sentir la chaleur. J'avais saisi l'opportunité d'un ciel colérique pour nouer plus fort d'autres relations que la nôtre. Ce faisant, et sans le dire, je dispensais un peu de l'amour dont tu m'avais fait le cadeau. J'avais 15 ans quand ton fils est né. Et j'étais chez toi le soir où tu as commencé à ressentir les contractions. Je me souviens de ton corps nu dans la baignoire et de tes cris. Nous étions trois à tes côtés. Ton mari, moi et maman. Tu accouchais, rien qu'elle n'ait déjà connu. Mais tu criais fort. À l'hôpital où nous t'avons emmené quelques heures plus tard, ils diraient qu'ils avaient rarement entendu quelqu'un crier aussi fort. La maison était plongée dans la pénombre. Ton mari enchaînait les gestes nerveux, tentant de constituer un sac d'affaires pour l'hôpital. Maman était calme. Elle restait à tes côtés, impassible devant tes cris. Maman, celle qui se déchaîne pour un rien, est aussi celle qui affronte les tempêtes sans trembler. Je me souviens de l'arrivée de la sage-femme dans la salle de bain. Elle voulait mesurer l'ouverture de ton col et sa main tentait de s'introduire en toi. Tu la rejetais d'un coup sec chaque fois qu'elle s'approchait. Tu criais. Non ! Te connaissait-elle ? Connaissait-elle ton histoire ? Tu ne l'as pas laissée faire. Alors que tu te débattais dans la baignoire, que tu hurlais et frappais cette petite femme replète qui se permettait d'essayer de fourrer sa main en toi, je me souviens avoir fixé la pilosité à la naissance de ton dos, autour de tes tétons, au creux de ton ventre. Tu hurlais et te cambrais. Je me souviens t'avoir trouvé féroce, admirable. Nous t'avons accompagnée à l'hôpital, puis, une fois entrée dans la chambre où tu accoucherais, on nous a demandé de sortir, le protocole médical voulant que la personne accouchant ne soit accompagnée que d'une seule autre personne. Quand nous sommes revenus, maman et moi, ton fils était né. Les draps étaient tachés de sang, tu étais pâle, très pâle, mais tu ne criais plus. Ma fille est née au terme d'une nuit chaude de juillet. Avant l'hôpital, ses néons froids, sa hiérarchie qui met des hommes sur deux et irrités tout en haut et des femmes exsangues mais compatissantes tout en bas, avant la longue piqûre dans le dos et les rafales d'injonctions chapeautées d'un « madame supérieur », avant tout cela donc, il y a eu 2 jours et une nuit à la maison entourée des miennes. Mes amis, proches, mes piliers, pleines de force et de vulnérabilité. Des reines qui n'ont jamais eu d'enfants, mais était tout à la célébration de celle que je m'apprêtais à mettre au monde. Pendant ces 2 jours et 1 nuit, mon corps s'est contracté beaucoup, longtemps, violemment. 2 jours de marche en forêt, de danse, de rire, de silence inquiet ou circonspect. 2 jours d'une lente capitulation de ma part. 2 jours bercés par les contractions incessantes, chaque déflagration m'écrasant le dos comme une enclume qui pèse toujours plus fort, qui fait toujours plus mal. 2 jours à observer mon corps rougir, gonfler, rugir. La 2e nuit, j'étais toujours chez nous, plongée dans une eau brûlante, submergée par la douleur, vague après vague, après vague, après vague. J'étais sur la terrasse de la maison, recouverte pour l'occasion d'une pergola un peu bancale, elle-même coiffée d'un ensemble de draps cousus entre eux. Posé au sol, il y avait un abreuvoir à vaches, de ceux dans lesquels on peut tenir assise. L'abreuvoir était alimenté par une grande casserole posée sur un gaz allumé en permanence. Un tuyau de jardin prodiguait l'eau à la casserole, que celle-ci rejetait une fois chauffée dans l'abreuvoir par l'entremise d'un petit robinet. Ma piscine d'accouchement. Installée quelques jours plus tôt, au cours d'un après-midi plein de rire. Autour de moi avaient été disposées des bougies et des fleurs, la nuit était tranquille, scintillante, épaisse et vaste à la fois. Nous l'avons traversée ensemble, petite équipe soudée, par cette nouvelle aventure. Mon corps continuait de besogner, traînant ma fatigue toujours plus loin, mais il besognait sans s'ouvrir. J'ai fini par demander qu'on appelle maman, qui veillait dans la maison voisine. J'avais dit, crié, hurlé même, qu'elle ne mettrait pas un pied à mon accouchement, que la dernière personne que je voulais voir dans cette épreuve, c'était elle, la mauvaise mère. Mais quand je n'ai plus trouvé en moi les ressources pour prétendre que tout allait bien, que je n'avais pas peur, que je savais que l'issue serait celle qu'elle était censée être, le besoin d'elle à mes côtés est devenu une évidence. On m'a fait répéter ma demande. Puis, dans le cœur de la nuit, c'est mon amie d'enfance, celle qui connaît maman et ses colères, moi et mon ressentiment, qui est allée la chercher. Quand elles sont revenues, tout le monde s'est retiré de la terrasse pour nous laisser toutes les deux. Maman s'est assise dans mon dos et m'a serrée contre elle, me pressant plus à chaque contraction. Et ce n'est que là, dans les bras de celle qui m'a tant blessée, de celle dont nous avons toutes les trois appris à nous défier sans relâche, c'est dans ses bras à elle que j'ai pu commencer à pleurer. Que j'ai pu avouer que je n'y croyais pas ou plus, que ça n'allait pas arriver, ce bébé dont on disait qu'il était dans mon ventre, que mon corps, dont on avait peut-être pensé qu'il était comme les autres, capable de cet acte immémorial qui consiste à reproduire, ne l'était finalement pas. S'ouvrir en deux pour laisser la place à l'inconnu, je n'en étais pas capable, ça n'allait pas arriver. Maman m'a bercée. Elle m'a dit que j'allais y arriver, qu'un bébé allait arriver, un bébé qui serait ma fille et sa petite fille. Elle m'a dit que j'étais forte et aimante, que ce bébé allait hériter de cette force et accueillir cet amour. Elle me l'a répété pendant des heures, tandis que je pleurais doucement. Tandis que j'expirais la douleur des vagues qui me saisissaient le corps tout entier. Mon corps s'est peu à peu ouvert, laissant la possibilité à l'immense et minuscule inconnu de prendre sa place dans ma vie. Mon corps s'est ouvert comme le sien s'était ouvert pour me laisser prendre ma place, pour te laisser prendre la tienne avant moi. Les jours précédant ta mort, maman dormait avec toi à l'hôpital. La journée, tu te montrais assurée, comme tu l'avais toujours fait. Tu vérifiais plusieurs fois auprès des soignantes les dates et les heures de tes soins, des opérations envisagées. Tu demandais confirmation pour montrer que tu suivais. Malgré les tubes qui canalisaient tes flux, malgré ton corps qui n'en finissait plus de noircir et de gonfler, malgré le masque qui entravait ton visage mais te permettait de respirer, tu étais encore là, alerte et en maîtrise. Mais la nuit, quand le bal des soignantes prenait fin et qu'il n'y avait plus que maman pour toucher ton corps déclinant et se tenir à tes côtés, tu laissais la panique te gagner. Tu allais mourir, tu le savais, et tu demandais à maman de ne pas laisser cela arriver. Celle qui t'a donné la vie devrait pouvoir empêcher que celle-ci te soit retirée. Mais même les mères n'ont pas ce pouvoir. Alors maman t'a bercée, comme elle le ferait des années plus tard avec moi. Maman t'a bercée vers la mort, dans cette chambre d'hôpital aux exhalaisons chimiques, dans la profondeur des nuits d'automne à Londres. Et puis maman m'a bercée vers la vie que je m'apprêtais à délivrer, dans la chaleur d'une nuit d'été chez nous. Notre mère, comète blessée, astre colérique, qui a toujours rendu si difficile de l'aimer, qui nous faisait porter à toute la responsabilité de laver l'affront qui lui avait été fait à la naissance. Notre présence ultime. Un enfant naît et nous lui faisons la promesse d'être toujours là, quoi qu'il en soit. Maman a tenu cette promesse.
Merci beaucoup Juliette pour cette lecture. J'espère que ça va pour tout le monde. Alors là, je suis censée rebondir. Peut-être je vais commencer par présenter Juliette Rousseau et aussi mettre son livre qui manque là. Voilà. Juliette, c'est son premier roman, mais c'est son deuxième livre. Le premier s'appelle « Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques » et il est à l'entrée. Et parle, lui, c'est plus un essai, une enquête sur des façons de lutter ensemble malgré les rapports de domination racistes, féministes, classistes qui traversent les luttes. Et donc c'est un texte beaucoup plus froid, pas du tout un texte autobiographique intime comme celui-ci. Et donc comme La vie têtue. Juliette est aussi éditrice aux éditions du Commun et elle a créé et dirigé la collection de poésie des éditions du Commun, dont un texte d'Élodie Petit qui s'appelle, j'ai complètement oublié,
Fiévreuse plébéienne.
Merci. Élodie Petit va venir aussi présenter son travail à la librairie, donc c'est chouette d'accueillir Juliette à la fois par son travail d'écriture et aussi par son travail d'éditrice. Et elle est aussi membre d'un collectif qui s'appelle Éditer en féministe, dont il y a d'autres personnes qui sont présentes ce soir, enfin, je pense aux éditions Blast qui sont par là, et donc peut-être on parlera tout à l'heure si on a le temps. Donc ce texte, La vie têtue, c'est un roman qui, je crois, naît du retour dans le hameau, la maison dans laquelle tu as grandi, en Bretagne, et qui vient aussi, si j'ai bien compris, du fait de toi-même être devenue mère et de l'envie de... C'est pas une envie, du besoin en fait de soigner les mémoires qu'on se transmet de génération en génération de femmes, des violences et de la mort et de tout ça. Peut-être ma première question, c'est... Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans ton texte, c'est donc du coup ce texte qui est dédié à ta sœur décédée, c'est que tu parles de qu'elle avait elle aussi un rapport à l'écrit, qu'elle écrivait beaucoup, qu'elle tenait des journaux, et que c'est des journaux que je sais que tu as pu avoir accès, enfin tu en parles dans ton texte, et le roman se clôt aussi par, enfin il y a une citation en fin de texte que j'ai. Dont je sais que c'est du coup une citation de ta sœur, même si tu ne le dis pas. Parce que je connaissais le prénom, donc j'ai pu faire une enquête tout à fait immense et trouver cette réponse. Et du coup, je ne sais pas comment trop bien articuler cette question, mais un truc qui m'a interrogée dans le rapport à l'écrit, c'est... du coup, il y a le texte que tu écris, les textes de ta sœur... et aussi cette question de l'écriture comme un lieu de guérison, un lieu pour survivre en fait à certaines violences. Et du coup, ma question c'est un peu sur ça et aussi un peu sur les frontières entre un texte qui est pour soi, un texte qui est pour être publié, qui est écrit pour d'autres et comment tout ça s'articule. Parce que j'imagine que l'écriture de ta sœur était plus une écriture de journal ou quoi, sans viser à être publiée.
En fait, je ne m'étais pas du tout posé la question avant d'écrire et dans les rencontres, là, depuis la sortie du livre, cette question, elle est apparue et du coup, il y a des trucs qui me sont apparus aussi là-dedans. Mais dans les personnages, en tout cas dans les mémoires que j'essaie de filer dans le texte, il y a, j'en ai pas lu d'extrait là, mais il y a aussi toute une série de mémoires sur ma grand-mère. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est ma grand-mère, elle dessinait beaucoup, j'en parle un petit peu, et elle avait des aspirations artistiques. Et puis, ça a été très vite tué dans l'œuf par son père, qui lui a dit, ça c'est un truc qu'elle nous a transmis, qui lui a dit, artiste, c'est pas un métier de femme, tu seras secrétaire ou infirmière. Et en fait, ma grand-mère, elle a été secrétaire, et ma mère, elle est devenue infirmière ensuite. Et moi, je me suis jamais perçue comme une artiste. Je me suis pas autorisée à être ça. Et c'est pas pour rien que mon premier livre, c'est un essai pour les luttes. Parce que l'écriture, si c'est pas utile, enfin voilà, c'est pas un truc qu'on peut s'autoriser, quoi. Si c'est pas directement utile. En tout cas, moi, c'était ça ma perception. Donc, artiste. Et en fait, en publiant La Vie Têtue, il y a eu un peu un truc de. J'ai eu l'impression d'avoir accompli. Vous voyez, c'est comme si j'étais allée au bout de la. Comme s'il avait fallu deux générations à ma grand-mère pour. Pour qu'il puisse se passer ce qu'elle voulait, quoi. Donc, je sais pas pourquoi je suis émue comme ça ce soir. donc il y a ça. Enfin, voilà, il y a quand même cette histoire aussi de, on habite des, enfin, je le dis dans le texte, mais on habite des continuités. Donc, écrire sur, moi, je sais pas si mon histoire, c'est vraiment mon histoire. Enfin, vous voyez, mon histoire, c'est comme une tentative de fuite qui prend plusieurs générations, quoi. Donc, l'écriture, c'est peut-être ça. C'est peut-être un des outils de la fuite. Et après, je me suis rendu compte aussi que, oui, par rapport à l'écriture, ma sœur, donc elle écrivait beaucoup. Ma sœur, elle écrivait beaucoup de prières à Dieu. Elle avait un dialogue très nourri avec Dieu, qui était une façon de survivre aussi, clairement. Et elle écrivait beaucoup. Moi, elle m'a écrit beaucoup de lettres, et ma mère aussi. Ma mère et elle s'écrivaient beaucoup, beaucoup de lettres. Donc c'est une écriture, vraiment une écriture de femme, quoi, une écriture de l'intime qui a pas du tout de prétention, effectivement, à être publiée, etc. Mais qui est une écriture là aussi. De la survie, qui est une façon de venir nourrir la relation, et donc c'est pareil, je l'avais pas du tout réfléchi avant d'écrire La Vie Têtue. C'est pas pour rien sans doute que ce texte prend aussi la forme d'une lettre, parce que ma sœur a commencé à m'écrire des lettres, comme on avait une grande différence d'âge. Elle a commencé à m'écrire des lettres quand j'étais vraiment petite, quoi. Je crois que ses premières lettres, j'avais 8 ou 9 ans. Et elle avait cette assiduité à m'écrire régulièrement. Et du coup, je crois que peut-être ce texte, c'est là aussi une continuité de se saisir de cet apprentissage de l'écriture et de ce cadeau qui m'a été fait, en fait, hein, clairement. Et aussi de continuer un dialogue quelque part à travers cette forme de la lettre. Voilà. Et aussi, peut-être, juste pour finir là-dessus, pour moi, l'essai, c'est vraiment la forme patriarcale de la pensée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se la réapproprier, mais vous voyez, il y avait un besoin de prouver quelque chose en écrivant un essai. Et puis patriarcale, puis aussi de classe, on ne va pas se mentir, quoi. Enfin, écrire un essai, ça veut dire poser un truc de 400 pages face aux gens dont on pense que ça va peut-être nous protéger de se prendre de la violence de classe et de genre. Ça viendrait dire qu'on notre propos mérite d'être entendu, puisque la preuve, il a pris cette forme-là, cette substance-là, etc. Et du coup, là, c'est presque un contre-pied total, parce que c'est une forme, pour le coup, vraiment aussi patriarcale, mais de l'autre côté, du côté des femmes, quoi. Enfin, patriarcale, je sais pas. En tout cas, construite dans le patriarcat de cette communication des femmes entre elles à travers la lettre et à travers cette écriture épistolaire et sensible, quoi.
Merci. Ma deuxième question, elle rebondit déjà avec ce que tu poses. Enfin, j'avais un peu une question pareille qui est peut-être un peu floue sur qu'est-ce que ça veut dire d'écrire en tant que femme, en tant que féministe, et du coup, peut-être, enfin, que là, c'est un texte très intime, autobiographique, qui parle des mémoires de plusieurs générations de femmes de ta famille. Et en le lisant, enfin, mais c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais il y a un truc de comment une histoire narrée à la première personne, hyper intime, comment ça peut faire écho avec des expériences à soi et guérir des choses à l'intérieur de soi, même si mon histoire est différente de la tienne. Et ça me faisait écho avec, avec tout ce qui existe en termes d'écriture autobiographique féministe et plus au niveau de la parole aussi, avec les groupes de parole où on va parler toujours en jeu, toujours à partir de son expérience, et comment, à partir de ces récits précis qui ne visent pas à écraser d'autres récits, à produire une vérité générale, mais juste à raconter quelque chose de soi, on peut essayer de guérir et fabriquer quelque chose à partir de ça. Et du coup, j'avais peut-être envie de te poser une question sur ça, sur à la fois les potentiels émancipateurs et aussi de guérison de l'écriture autobiographique. S'il y avait aussi, donc t'entendre parler de toi, et puis aussi s'il y avait peut-être des textes qui t'avaient beaucoup inspiré ou des mouvements ou des, je sais pas, des autour de cette pratique de l'écriture intime en tant que féministe, en tant que femme. Je ne sais pas si c'est très clair.
Si, c'est très clair. Je trouve qu'il y a un endroit de tension. Il y a vraiment un endroit de tension là-dessus sur la question de l'écriture comme. C'est comme s'il y avait plein de poncifs un peu auxquels on veut éviter, l'écriture comme témoignage, l'écriture comme forme de thérapie. Enfin, moi j'avais vraiment peur de ça. C'est venu quoi, des gens qui m'ont dit mais est-ce que ce texte t'a permis de sentir mieux. La réponse étant oui, puisque j'aime écrire, donc écrire me fait me sentir mieux. Est-ce que le texte se substitue à un travail thérapeutique? Non. En même temps, donc il y avait un peu ce truc de pas avoir envie d'être enfermée dans une écriture, dans cette espèce de stéréotype d'écriture de meuf qui écrit pour faire sa thérapie ou je sais pas quoi, enfin un truc un peu. En même temps, quand je disais tout à l'heure, moi je pouvais pas m'autoriser à écrire des trucs qui seraient pas utiles. J'ai pas écrit la vie têtue en me disant ça va être utile, mais je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que oui, c'est quand même une écriture qui aspire à la réparation, qui part d'un besoin de réparation de soi et dont on sait par ailleurs qu'il est partagé. Et que du coup, ça pose aussi la question des écritures qui peuvent se payer le luxe de ne pas avoir envie de réparer quoi que ce soit ou d'écrire dans un monde qui irait bien. Quoi. Enfin, donc il y a quand même aussi un truc de l'ordre de... c'est tout cet imaginaire, en tout cas autour de la littérature, qui serait moins bonne si elle est ancrée dans l'intime et si elle brasse des enjeux de réparation, de blessure et donc de réparation. Donc moi je suis à un endroit un peu d'inconfort là-dessus, parce que j'ai l'impression que des fois ça me fait un peu un truc de avoir envie de me défendre et de dire non, c'est pas du tout une écriture, rien à voir, c'est pas une écriture de l'intime. En fait, c'est carrément une écriture de l'intime, donc je sais pas pourquoi j'essaie de dire ça, mais voilà, des fois j'ai envie de le dire pour m'en défendre, parce que j'ai l'impression que derrière, ce qu'on va venir dire, c'est qu'effectivement, c'est moins qualitatif, alors que ça reste une écriture littéraire, ça reste un... Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, par rapport à la vie têtue, je te le disais tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très intentionnel, dans le sens où je me dis pas « Ah, j'ai envie de dire ça, donc je vais écrire ça pour... » J'écris et après je me dis « Ah tiens, j'ai dit ça. » Et donc, c'est un peu tout comme ça. Et sur, du coup, sur cette question de l'écriture de l'intime, la forme de texte court, elle est choisie parce que j'avais pas du tout envie d'écrire... Ça ne m'intéressait pas d'écrire une histoire dans le détail. J'avais envie d'écrire plutôt sous forme d'esquisse, parce que j'avais envie que ça soit un texte pudique. Même s'il peut être très impudique à plein d'endroits, parce que c'est aussi un texte qui parle beaucoup du corps et du sang et de toutes les matières du corps, etc. Donc on peut considérer que c'est un peu impudique, mais moi j'avais quand même envie d'une écriture un peu par esquisse. Et du coup, je crois que j'avais envie de parler de l'intime depuis... la question des sens, je m'en suis rendu compte après coup, elle est hyper importante. Enfin, la dimension sensorielle dans le texte, elle est hyper importante. Et je crois que c'était vraiment une façon de poser la question, ou en tout cas d'écrire une... le point de départ du texte, c'est... Je suis désolée, je fais une digression. Je fais beaucoup ça, donc si je vous perds, désolée. Le point de départ du texte, c'est quand même la question du deuil, mais c'est la question du deuil plus largement que le deuil d'une personne. Moi, j'ai eu l'impression, en faisant l'expérience du deuil, d'un deuil violent jeune, que l'imaginaire qu'on a du deuil dans cette société, c'est un imaginaire de... Le deuil, c'est comme une maladie, c'est un truc, ça t'arrive. Et puis, vous voyez, les étapes du deuil, et puis à un moment donné, c'est fini et tu reviens à ta vie d'avant. Ce qui est un mensonge hallucinant, mais qui est aussi une violence, parce que du coup, c'est une dépossession de nos morts et de nos mortes. Et que j'ai fini par comprendre, mais après beaucoup d'années, que j'attendais quelque chose ou qu'on me demandait de faire quelque chose qui n'était pas possible, à savoir me déposséder de la mémoire de mes mortes et de, en l'occurrence, ma morte. Et que du coup, cette question du deuil, en fait, le deuil, c'est toute la vie, quoi. Et c'est triste, mais c'est pas parce que c'est triste que c'est mauvais. Enfin, et du coup, pour moi, il y a quelque chose de politique là-dedans, qui est de reprendre pour soi cette condition d'endeuillé, et d'en faire une façon de cheminer dans la vie. Et quand je dis que c'est plus large que la perte d'une ou de plusieurs personnes qui nous sont chères, c'est que dans ce texte, j'avais envie de parler du deuil du territoire. Du coup, c'est un texte que j'ai écrit à partir de l'endroit où j'ai grandi, où je suis revenue habiter, qui est marqué par le deuil, par toutes les disparitions. Pour moi, qui est marqué par tout ce qui était dans mon enfance et qui n'est plus aujourd'hui, tout dans le vivant, les espèces, les arbres, tout ce qui a disparu et qui continue de disparaître. Mais c'est aussi le deuil des vies qu'auraient dû avoir les femmes avant nous et qu'elles n'ont pas eues. Le deuil des vies que nous, on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eues. Et aussi le deuil des vies que, en l'occurrence, nos enfants devraient pouvoir avoir et qu'ils n'ont pas. Et du coup, il me semble que cette question du deuil, elle est collective, en fait. On vit tous et toutes avec le deuil, et en même temps, on vit dans une société qui nous dépossède ou qui voudrait tout le temps, enfin, qui nous construit dans l'idée qu'il faudrait fuir ce truc-là. Il faut fuir. Je pense que plein de choses nous sont données dans cet objectif de fuir ce deuil et de fuir ce qu'il implique en termes de colère, de tristesse. Et donc voilà. Donc désolée pour cette longue digression, mais c'était pour expliquer que je crois que la démarche du livre, c'était en premier lieu, pour moi, cette question de comment est-ce qu'on habite le deuil et comment est-ce qu'on vit en habitant le deuil et comment est-ce qu'on transmet et est-ce que c'est possible d'affirmer de vivre une vie endeuillée qui est une vie pleine, qui est une vie attachée, bonne, sensible. Et donc, je crois que c'est un peu une lutte contre l'abstraction, finalement, l'écriture. Et donc, voilà, c'est... Désolée, je suis partie dans tous les sens. voilà.
Non, pas du tout. Je cherchais une page que j'ai pas retrouvée où tu parles de la douleur du deuil et que tu retournes aussi de choses qui t'appartiennent en propre aujourd'hui et que c'est aussi une des choses que tu chéris le plus. Enfin, je j'ai pas retrouvé la page. Vous lirez le livre et peut-être vous retrouverez la page. Mais enfin, merci pour tout ce que tu racontes et enfin mon propos c'était pas du tout de dire, enfin moi je trouve que l'écriture intime c'est super et je pense que c'est ce qui m'a formée politiquement et que tous les textes, enfin et je pense à tous les textes écrits par des personnes féministes, des personnes queer qui permettent en fait à d'autres vies d'exister parce qu'il y a des gens qui ont le courage à un moment de nommer des douleurs que personne ne nomme, de créer des espaces mais qui se passent dans l'écriture et qui ont l'air parfois infimes et peut-être que ça suffit pas du tout, mais enfin c'était pas du tout pour dire que c'était et j'avais d'autres questions mais peut-être qu'en fait on va plutôt passer la parole au public.
Je peux dire un truc juste avant sur la question du deuil, parce que je ne l'ai pas lu, mais en exergue du texte, il y a une citation d'une militante états-unienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cindy Milstein, et qui coordonne des textes, qui est anarchiste, qui coordonne des textes, des recueils collectifs sur tout un tas de questions. Et notamment, elle a coordonné un ensemble de textes sur la question du deuil, qui s'appelle « Le deuil rebelle », qui n'a pas été traduit, sur justement les potentiels révolutionnaires en fait, de se saisir de cette question du deuil qui en fait, est partout et en même temps nulle part, c'est-à-dire effacée. Et donc elle dit la chose suivante, elle dit « L'un des affronts les plus cruels, cependant, résidait dans le fait de devoir cacher la douleur, l'enterrer, la privatiser, un mensonge qui ne visait qu'à dissimuler et défendre l'ordre social qui produit dans nos vies, les pertes trop nombreuses et injustifiées. » Et voilà, j'avais envie de vous la lire parce que je crois que il y a quand même. J'ai pas voulu écrire un texte. J'ai pas voulu écrire un. Bah justement, pas un essai, c'est pas un manifeste. Mais pour moi, le point de départ d'écrire sur le deuil et qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on meurt. Et c'est pas une question abstraite. Qu'est-ce qui fait dans ce monde précis qu'on en vient à mourir. Pour moi, c'était quand même un point de départ à la fois une nécessité. Un besoin et aussi un truc très politique, quoi.
Du coup, ma question, c'est pourquoi il s'appelle comme ça le livre ?
Très bonne question, un peu par hasard. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est un extrait en fait d'un des poèmes du livre. Et il y avait deux. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, on a eu un. Moi, je suis nulle pour les titres. C'est un truc que j'ai remarqué, il y a des personnes qui commencent à écrire avec un titre, qui ont vraiment le titre au début, et ensuite il y a tout le texte qui... Et moi c'est l'inverse, moi il y a tout le texte, et après le titre c'est une chierie à chaque fois, enfin je suis nulle quoi. Et donc ça a été une longue discussion avec mon éditrice, et on avait deux titres qui restaient, qui sont deux extraits de poèmes. Le premier c'était « Ceux qui demeurent », et le deuxième c'était « La vie têtue ». Et « La vie têtue », en fait, c'est extrait d'un texte que j'ai pas lu sur... sur les hirondelles et sur le retour des hirondelles chez moi, parce que, voilà. Et du coup, c'était cette idée de la vie qui revient, quoi qu'il en soit, en fait, même par les interstices, même plus petite, elle revient toujours. C'était un peu voilà. Moi, j'ai pas beaucoup. Je suis pas trop quelqu'un qui croit, au sens où j'ai pas des représentations conscientes de. J'ai pas trop d'idées sur le monde, quoi. Je suis plutôt, par contre, très dans le ressenti, dans le sensoriel, et du coup, je crois que du point de vue du sensoriel, on est constamment en fait traversé par le passé. Je pense que sur la question du sensoriel, une des dimensions qui traverse le texte, c'est du coup cette question du territoire. Et je me suis rendu compte en revenant habiter là où j'ai grandi que la possibilité, je vais essayer de l'exprimer correctement, mais c'est pas sûr que je vais y arriver. Mais la possibilité de ressentir avec ses sens le monde, comment c'est construit, enfin, je me suis rendu compte, pour le dire plus concrètement, que ma possibilité d'être moi et d'habiter mes continuités, elle tient à l'existence des espèces d'oiseaux avec lesquels j'ai grandi, des luminosités avec lesquelles j'ai grandi, des odeurs des saisons, de tout un tas de choses qui viennent faire exister mes sens, et que une partie de ces choses-là ont disparu et sont toujours en train de disparaître. Et du coup, moi, c'était comme si j'avançais dans la vie en m'amenuisant sensoriellement, et pour autant, la mémoire de ces sens-là, elle est là. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'écris sur ma sœur, sur le corps de ma sœur, sur tous les moments où on s'est touchés, etc., c'est que cette mémoire sensorielle, elle est là. Donc, je sais pas si ma sœur est quelque part au-delà, etc. Par contre, dans ma chair, dans mon ressenti, dans mes sens, elle et le monde que j'ai connu et le monde qu'on a connu sont clairement toujours là. Et du coup, c'est une violence que d'avoir à le taire et à l'éteindre. Et en fait, c'est une douceur triste, ou une triste douceur, que de pouvoir continuer à le nourrir. Mais après, là où je pense que l'expérience du deuil, elle est politique, c'est que je crois que ce que nous vend le capitalisme, c'est l'idée qu'une vie bonne, ça serait une vie sans douleur. Ça serait une vie juste. Et je pense que la mort, c'est un très très bon exemple de ça. Aujourd'hui, la mort, elle est marchandisée de bout en bout. C'est-à-dire, on ne peut pas. Sauf en fait à bidouiller, on ne lave plus nos morts, on ne les accompagne, on ne les garde pas chez nous. Tout est fait pour que ça soit fait à notre place, et ça nous est vraiment présenté comme quelque chose qui va nous alléger, qui va nous rendre l'expérience du deuil moins présente, moins dure. Mais en fait, on nous en dépossède. Et moi, j'ai trouvé ça effrayant quand je me suis rendu compte de ça, que... Et je pense que c'est sur le deuil, mais comme c'est sur la vie, c'est pour ça aussi que j'écris, que je mets en lien cette question de l'arrivée de la mort et de l'arrivée de la vie. C'est que, à tout un tas d'endroits, en prétendant nous alléger et nous empêcher, nous éviter la douleur, en fait, on nous dépossède de la vie. Et du coup, là où je vois l'expérience de deuil comme quelque chose de politique, c'est que habiter cette douleur, c'est une façon d'être dans la vie. Et c'est une façon aussi d'être plus en prise avec ce que fait ce système capitaliste et toutes les dominations, toutes les oppressions structurelles. Qu'est-ce que ça produit concrètement dans les corps? Qu'est-ce que ça produit vraiment autour de nous? Qu'est-ce que ça produit en termes d'affect? Voilà, je pense que ça fait partie des choses dont on a besoin, qu'il faut se réapproprier en fait, et qu'il ne faut plus éviter ou pas chercher à... c'est presque une ouverture affective et sensorielle au monde, en fait, que je prêche dans le texte, en vrai. Alors, moi, je fais partie d'une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Commun, qui est une maison d'édition coopérative basée à Rennes et qui publie des textes de critique sociale et politique. Donc, on publie des essais, de la littérature, de la poésie. Et donc, je vais essayer de construire un truc à partir de ça. Donc, voilà. Donc, moi, on est trois éditrices à travailler ensemble. Ah là, je suis désolée, j'ai mis mon cerveau militant de côté ce soir, donc... Ok, je vais quand même dire un truc que j'aime bien dire dans les présentations. Alors ça décale complètement de la question de l'écriture, mais donc moi, je suis éditrice dans cette maison d'édition qui est une maison d'édition indépendante, qui fait tout un tas de choix politiques, avec un peu le point de départ de considérer que publier des textes qui défendent des enjeux politiques, ça implique de les publier d'une certaine manière. C'est-à-dire, on peut pas décorréler l'homme de l'artiste. Non, je rigole. Non, mais les textes des pratiques, quoi. C'est une option. C'est pas une option majoritaire aujourd'hui dans l'édition. Et je vis tout un tas de paradoxes, mais dont un qui est que donc je suis en tant qu'autrice, je suis éditée dans cette maison d'édition Cambourakis, qui fut une maison d'édition indépendante, mais qui ne l'est plus, qui a été rachetée par Actes Sud. Premier paradoxe. Je peux vous faire une liste de mes contradictions, mais j'aime bien le dire parce que pour moi, la publication du texte a été tout un tas de questionnements, parce que donc. Donc je suis éditrice, je suis aussi éditrice engagée dans un collectif dans lequel sont aussi les éditions Blast et d'autres maisons d'édition qui s'appellent Éditer en féministe, qui posent la question justement de qu'est-ce que ça veut dire éditer en féministe, qu'est-ce que ça vient dire de nos pratiques éditoriales, où est-ce que ça doit les questionner, etc. Et qui est un des endroits questionnés, traversés par la question de... clairement, aujourd'hui, le féminisme est un argument marketing béton pour l'édition. On a beaucoup, ça fait peut-être trois rentrées littéraires qui sont marquées par le féminisme, au sens où il y a énormément de textes féministes qui sortent. C'est plus possible aujourd'hui de faire de l'édition sans publier des textes féministes, quoi. Concrètement, tout le monde en fait. Ceci étant, donc voilà, il y a beaucoup de textes féministes qui sortent, beaucoup de textes féministes qui se vendent. Et. Peu, voire pas, en fait, d'implication en termes de changement structurel pour le secteur de l'édition. Et peu ou pas non plus de retombées financières et matérielles pour les maisons d'édition féministes indépendantes qui existent aujourd'hui. Les éditoristes féministes indépendantes continuent de majoritairement ne pas réussir à se rémunérer de leur activité. Et donc, on est en train d'assister à ce truc, mais très typique, enfin très classique du capitalisme, mais qui est qu'on a une capture, un effet de capture en fait des questions féministes hyper fort, un effet de mode qui va passer, et qu'il est tout à fait, il est tout à fait possible, même assez certain que en fait, quand cet effet de mode sera passé, bon, déjà le patriarcat sera toujours là, ça fait pas de doute, mais par ailleurs, en fait, on n'aura pas vraiment, quand je dis on, c'est-à-dire nous, les structures indépendantes et les structures en particulier les structures féministes indépendantes, on n'aura pas bénéficié de ça. Donc c'est un problème. Et du coup, moi, je tiens à le dire parce que avant de sortir ce texte, ça a été vraiment un questionnement pour moi de me dire. À la fois, c'est clairement un texte féministe, mais je suis très mal à l'aise de me retrouver dans cette rentrée littéraire féministe parce que, pour toutes les raisons que je viens de nommer, et aussi parce que j'ai l'impression que quand on devient à la mode, on a plus à perdre qu'à gagner, enfin, vous voyez. Et pour le dire plus concrètement... dans les questions politiques que soulève le fait d'éditer en féministe, mais d'éditer peut-être aussi, on pourrait dire, en anticapitaliste, il y a par exemple la question de la propriété intellectuelle, qui est une question qui n'est jamais soulevée. Mais aujourd'hui, en France, la plupart des contrats d'auteurisme sont calés sur le droit de la propriété intellectuelle, lequel stipule que quand on cède ses droits, on les cède pour toute sa vie, plus 70 ans après sa mort. Or, il est bien évident aujourd'hui que si le féminisme a un tel succès, et c'est parce qu'il y a des mouvements de lutte qui connaissent des vagues, la dernière c'est MeToo, Et donc, en fait, on a ce truc complètement hallucinant que des mouvements de lutte produisent des modes d'enrichissement pour le capitalisme et que notamment des textes qui, en fait, doivent aux mouvements de lutte. Moi, l'une des raisons pour laquelle je fais de l'édition, c'est parce que je pense que les textes, c'est important pour les luttes, que c'est un des outils, pas le seul, mais un des outils, et que les luttes produisent des idées qui produisent des textes qui, en retour, produisent des idées qui produisent des luttes, et qu'on a cette espèce de va-et-vient, de façon de se nourrir mutuellement, qui est fondamentale, sauf qu'au milieu, on a le capitalisme qui capture, qui se saisit, et notamment sur la question des droits. Un texte qui écrit aujourd'hui comme le mien, je ne sais pas si le mien est très utile politiquement, mais peut-être on peut en imaginer des plus utiles, mais qui, en gros, aujourd'hui j'écris un texte féministe en réponse ou en dialogue avec les mouvements de mon époque. Ce texte-là ne retombera peut-être dans le domaine public que dans 140 ans. Donc on a ce truc complètement hallucinant qui est que, en fait, voyez, quelque chose qui devrait être en dialogue de façon assez... Je dis 140 ans, c'est, je te vois réagir en imaginant que je vis 70 ans. Et puis que... Sur mon texte en particulier, non, parce que moi j'ai négocié autre chose. Voilà, mais très majoritairement, oui, en fait, c'est ça. Donc voilà, on a des questions à poser quand même sur qu'est-ce que ça veut dire écrire, à quoi ça sert. Donc là, je reviens à mon petit truc de écrire doit servir à quelque chose. Mais oui, comment est-ce que nos écritures, qu'elles soient de quelque type qu'elles soient, viennent s'inscrire dans ce mouvement justement de réciprocité en fait avec les mouvements de lutte. Et aujourd'hui, clairement, non seulement on n'en est pas là, mais en plus ça fait pas du tout partie du débat public, quoi. Tout a l'air de se passer comme s'il était tout à fait normal que des idées féministes viennent nourrir des empires comme celui de Bolloré ou, dans mon cas, Françoise Nyssen avec Actes Sud. J'avais envie de le dire parce que ça me paraît important de le rappeler et que on aimerait avec le collectif Édité en Féministe que ça fasse partie du débat public en fait. Et clairement, pour le coup, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Voilà. Je sais pas si. Non, pas du tout, mais ça veut dire, par exemple, entre-temps, on peut essayer de rendre publique cette question et faire en sorte que les auteuristes soient en capacité de négocier autre chose. On peut négocier. La maison d'édition pour laquelle je travaille, sur cette question précise de la propriété intellectuelle, on a des durées de cession de 5 ans qui sont renouvelables tacitement. Mais donc, ça veut dire, nous, on a les droits pour 5 ans et après, si l'auteuriste décide qu'il ou elle a envie d'aller travailler avec une autre maison d'édition, il peut tout à fait le faire. Ça, c'est un exemple, et ce n'est pas pour dire qu'on est vertueux, on pourrait même imaginer faire mieux. Je dirais qu'à l'opposé du spectre, on a des maisons d'édition qui font signer des contrats qui obligent les auteuristes à soumettre leur texte suivant à la même maison d'édition. Ça va encore plus loin, en fait, que juste « je prends tes droits pour toute ta vie et 70 ans après ta mort ». Donc c'est des choses dont, effectivement, on ne va pas les changer tout de suite et il ne faut surtout pas qu'on arrête d'écrire. Mais par contre, on a plein de façons d'imaginer. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de négocier que les textes soient mis en ligne. De façon plus pirate, ça peut être juste de mettre son texte en ligne. Mais il y a des maisons d'édition qui font le choix aussi de mettre leur texte, de mettre l'ensemble de leurs textes en ligne, téléchargeables gratuitement. Et ça, c'est des choses, c'est des outils qu'on a, mais il faut pouvoir en parler et le défendre comme des mesures politiques, comme une façon aussi de répondre à la capture marchande et capitaliste de nos pensées, de nos créations, etc. Et je pense sur la question du féminisme, il y a aussi un truc, c'est que nous, on s'est posé la question sur la question des maisons d'édition féministes, parce qu'en fait, en France, il y a deux maisons d'édition féministes qui datent des années 70, qui existent encore, mais qui sont des toutes petites structures. Et moi, je sais pas vous, mais moi, en tant que militante féministe, ces dernières années, le nombre de fois où j'ai eu l'impression d'inventer l'eau chaude, alors qu'en fait, c'était des trucs qui s'étaient déjà passés dans les années 70, et qu'en fait, il y a aussi cette question de la mémoire, c'est comment est-ce qu'on transmet la mémoire, et que si nos structures n'ont pas la capacité d'être pérenne, et pour être pérenne, il faut se payer, ça veut dire il faut payer les éditoristes, il faut payer les auteuristes, etc. Sans pérennité, on perd une partie de la mémoire, parce que les textes, c'est aussi une façon de conserver la mémoire. C'est évidemment pas le seul outil, mais ça fait partie des outils. Et du coup, moi, c'est ça aussi ce que j'essaie de dire par rapport à qui va survivre à cette vague. Comment est-ce que derrière, on va pouvoir continuer à publier des textes, à prendre des risques aussi, parce que c'est pareil, il faut pas se faire de leurre, quoi. Qui prend des risques aujourd'hui? Qui aussi choisi des textes moins mainstream, des voix moins visibles, des idées un peu plus dérangeantes, etc. C'est pas les grands groupes éditoriaux, quoi. Et du coup, on a besoin de ces espaces-là, et on a aussi besoin que ces espaces-là durent. Et effectivement, il y a tout un tas de choses, en tout cas, à mettre en avant pour faire prendre cette conscience-là, enfin, faire prendre conscience de ça. Et enfin, je pense un dernier truc, c'est aussi pour moi venir rendre public ces choses-là, parler de la rémunération, parler de qui gagne combien, des chiffres aussi, etc. C'est défaire plein de mythes, mais c'est notamment défaire un mythe super patriarcal et je pense aussi très capitaliste et colonialiste et tout, enfin, je pense qu'en fait pétri de tous les rapports de domination, mais qui vient dire en gros que l'écriture, ça serait un truc qu'on ferait comme ça, on n'aurait pas besoin d'être payé, on n'aurait pas besoin de, enfin c'est vraiment l'idée de l'écrivain qui a pas besoin de manger ou de faire le ménage parce qu'il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Enfin, vous voyez, c'est quand même cette idée-là, quoi. Et que du coup, je trouve que poser la question de quelles sont nos conditions d'écriture et de publication, elle est aussi, enfin, c'est aussi fondamental, quoi.
Je pense que ça va être le mot de la fin.
C'était Rencontre avec Juliette Rousseau autour de son livre La vie têtue, paru aux éditions Cambourakis.
Sur livre ou tarot.